la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
15h et presque 4 minutes sur France Inter, l'heure de Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis.
Écoute, je t'appelle parce que je ne supporte plus la publicité pour la Matmut.
Oui, bonjour, je voulais assurer Didier Porte de mon soutien et lui dire combien j'ai été scandalisée par les propos tenus par Nicolas Demorand et son équipe sur le grand, au grand journal de Canal+ hier soir. Voilà, et merci à Mermet pour ses émissions.
26 ans après la catastrophe de Bhopal, 8 personnes ont été jugées coupables lundi par un tribunal indien. Que des Indiens. Il y a quand même le président de la branche indienne de la compagnie américaine Union Carbide, mais je pense que 28 ans après, il est pas loin de la retraite.
Salut les AMG, le repère du Briouze dans l'Orne aura lieu le jeudi 10 juin à 19h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit, le 10 à 19h au Brazza, Briouze, salut.
Bonjour, nous sommes les Maternitantes, un collectif de mamans intermittentes du spectacle. Nous nous réunissons mercredi prochain, le 9 juin à 11h devant la Halde, car nous envisageons de saisir la Halde au sujet des discriminations qui existent à l'encontre des jeunes mamans intermittentes du spectacle et d'une manière générale, à toutes les femmes qui exercent un emploi discontinu. Il existe d'énormes vides juridiques. Il y a des jeunes mamans qui tombent enceintes et qui ne sont pas du tout couvertes pendant leur congé maternité, alors même qu'elles travaillent depuis 10 ans, 15 ans. Donc nous essayons de dénoncer ce problème. Tous ceux qui veulent nous rejoindre pour soutenir notre combat, nous vous invitons à venir devant la Halde mercredi 9 juin à 11h. La Halde se trouve au 11 rue Saint-Georges dans le 9e à Paris. Et pour plus d'informations, à consulter notre blog http://maternitante avec M-I-T-E-N-T-E-S à la fin, maternitante.over-blog.com.
Bonjour à toutes et tous. Le prochain repère des AMG de Montreuil-sous-Bois aura lieu mercredi 9 juin à 19h, rue piétonne, 14 rue du Capitaine Dreyfus, à la Pizzeria Café, au métro Croix de Chabot.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. On célèbre ces jours-ci le débarquement allié en juin 44. Dans quelques jours, on va commémorer l'appel du 18 juin 1940. Bref, on nous revoilà dans la base de notre histoire, la plateforme de notre histoire contemporaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on va au Japon. On va au Japon, on va exactement à Okinawa, c'est-à-dire au sud du Japon. Pourquoi ? Parce que là, on va célébrer cette année le 65... On célèbre actuellement, d'ailleurs, là-bas, le 65e anniversaire de la bataille d'Okinawa. Une des batailles les plus violentes, les plus sanguinaires, les plus barbares probablement de cette Deuxième Guerre mondiale et qui allait mettre un terme à, un peu avant ce que les fameux bombardements sur le Japon et évidemment l'explosion de bombes de Hiroshima et Nagasaki. Mais c'est là que la guerre de l'Asie Pacifique allait trouver son terme, et le terme aussi à l'aventure de ceux qu'on peut appeler les nazis de l'Asie, c'est-à-dire ce gouvernement japonais dont les idées, la base idéologique était très proche de celle des nazis, de l'Allemagne nazie, du Troisième Reich ou de l'Italie fasciste, militaro impérialiste, et on va essayer de retracer cette histoire, parce que si on veut comprendre ce qui s'est passé ici, il faut comprendre ce qui s'est passé au même moment là-bas. On a un peu une mémoire hémiplégique. Et puis on verra aussi ce qu'il en coûte à un peuple d'être dans l'impossibilité de regarder sa mémoire en face. Non pas que nous le fassions toujours comme nous le devrions, mais au moins les Japonais, eux, sont pour l'instant dans la difficulté de regarder cette mémoire en face, pour des raisons qu'on découvrira ou qu'on redécouvrira pour ceux qui connaissent déjà cette histoire au fur et à mesure de l'émission d'aujourd'hui et probablement aussi de demain. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Une commission de plus vient d'être nommée par notre gouvernement. C'est une commission qui va plancher sur les rythmes scolaires. Alors, c'est sympa, pendant 9 mois, il y a des sociologues, des médecins, des enseignants qui vont plancher sur les rythmes scolaires de nos chères têtes blondes. Mais il y aura aussi dans cette commission des professionnels du tourisme. Et oui, ils ne peuvent pas s'en empêcher, les gouvernements libéraux. Toujours, il y a un petit plus comme ça, glisser sous le tapis pour bien nous prouver qu'on est avec un mouvement ultralibéral. Voilà, les professionnels du tourisme vont donc s'occuper des rythmes scolaires de nos enfants, sachant que leur priorité à eux, c'est qu'ils aient un maximum de vacances pour remplir leurs hôtels, ce qui n'est pas du tout la priorité des enseignants. Et pour parfaire le travail, il n'y a aucune fédération de parents d'élèves. Donc, rendez-vous dans 9 mois pour voir à quel point le lobbyisme fonctionne bien dans notre pays. Allez, salut.
Mercredi 9 juin à 20h aura lieu une projection du film Les 88, l'art de la grève, à la salle Jean Dame, rue Léopold Bélan, dans le 2e arrondissement à Paris. C'est un documentaire qui revient sur la grève des travailleurs sans papier intérimaires du bâtiment de l'agence MAN BTP. Je rappelle que cette grève qui a eu lieu en 2008 a duré 9 mois, qu'elle était soutenue par Solidaire et l'association Droit Devant, et qu'elle a permis la régularisation de la plupart des grévistes. Elle constitue donc un vrai message d'espoir pour tous ceux qui sont dans la même situation. La projection sera suivie d'un débat avec Jean-Claude Amara de Droit Devant et les porte-paroles des grévistes. Donc venez nombreux parce que ça nous encourage vraiment à continuer de faire bouger les choses et la lutte continue pour tous ceux qui n'ont pas pu être régularisés.
La guerre n'a jamais fini, en fait, à Okinawa.
On est dans le musée militaire de Tokyo, ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un avion kamikaze qui est suspendu au plafond de cette grande salle. Et voilà les avions dans lesquels les kamikazes se balançaient en l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'hélice. Ce sont des planeurs en tête de l'avion.
Le petit goupillon à la tête de l'avion, c'est le détonateur qui faisait exploser toute la charge qui est dans le nez de l'avion et qui permettait de faire exploser les navires américains essentiellement.
Derrière la barrière, c'est l'Amérique. Il cassait les branches de l'arbre, il fracassait la tête, ou avec un rasoir couper la gorge, ou avec la faux couper les veines, les poignets. Et c'était l'enfer vivant, les femmes pleuraient, hurlaient, les enfants hurlaient, c'était l'enfer. C'était entièrement leur responsabilité. Entièrement la responsabilité de l'armée empereur.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil. Okinawa, la mémoire suicidée.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, 1929年, ケルマ諸島のトカシキという島、いわゆる強制集団死が起こった島で生まれました。
Je suis né en 1929, je suis né dans une île, Tokashikishima. C'est une petite île où s'est passée cette chose horrible.
Ma結論から言いますと、悲惨な世界戦争でも類を見ない 強制集団死。もともとは集団自決とも言ったし、戦争中は玉砕と。
Cela s'est passé suicide collectif forcé. À l'époque, on disait que l'empereur a ordonné à tous les peuples japonais de mourir pour le pays.
Suicide collectif forcé.
強制集団自決ですね。
C'est ça, suicide collectif forcé.
16歳ですね。
J'avais 16 ans.
天皇や国のために命を捨てるということですね。
L'empereur a dit de mourir pour le pays et j'y croyais.
Petit homme, gris, pâle, modeste, dans cette église vide, sous la pluie, dans cette ville Naha, la capitale de l'île d'Okinawa, tout au sud du Japon, loin au sud de Tokyo, à 1500 km au sud de Tokyo. Nous voilà à Okinawa. Pour entendre ces mots-là, suicide collectif forcé, et pour rencontrer cet homme, monsieur Shigeaki, qui a été plus que témoin de ces suicides collectifs forcés qui ont été l'aspect le plus terrifiant de cette bataille d'Okinawa en mai et juin 1945. Suicide collectif forcé. Vous pensez tout de suite, bien sûr, aux fameux kamikazes dans ces avions sans moteur, ou bien des navires torpilles également. Vous pensez à cette proximité de la mort et de la guerre célèbre qui ont rendu tristement célèbre cet épisode et cette région du monde. Et on va essayer de retracer qu'est-ce qui a conduit à ça, comment on en est arrivé là, comment ce pays, ce Japon a pu être ainsi complètement submergé par cette idéologie de la supériorité de la race nippone, ce fondement idéologique qui voulait que les Japonais fussent d'une essence génétique supérieure, qui leur donnait un droit à dominer les pays alentours et l'Asie tout entière. On retrouve là, bien sûr, l'idéologie nazie, l'idéologie de la supériorité d'une race sur une autre. Et cette idéologie a conduit jusqu'à cette parfaite et totale soumission à l'autorité. Récemment, on a eu une espèce de boursouflure médiatique pour nous effrayer face à la soumission à l'autorité. Mais c'est une vieille coutume que cette soumission à l'autorité. Et n'importe quelle armée, depuis que les armées existent, montre ce qu'est la soumission à l'autorité, la soumission militaire. Mais là, il s'agissait de civils également. Il s'agissait des habitants de cette île qui, lorsque les troupes alliées, essentiellement américaines, sont arrivées sur cette île, ont reçu l'ordre de l'état-major, relayant l'ordre de l'empereur, de que les populations se suicident afin d'éviter les tortures et la mort qui seraient données par ces diables, ces monstres qui arrivaient, ces monstres et ces diables blancs qui arrivaient pour torturer et exterminer la population. Ordre fut donc donné de se suicider ou de s'entretuer. Et des habitants l'ont fait, nombreux, on en ignore le nombre exact toujours aujourd'hui, mais c'est là, ça s'est bel et bien produit,
Et cet homme en est le témoin. Pourquoi parler de ça aujourd'hui ? Parce que c'est au Japon l'objet d'une polémique toujours présente. Il y a encore peu de temps, dans des manuels scolaires, le ministre de l'Éducation du Japon avait demandé que soient gommées les mentions de ces suicides collectifs. Non pas ces suicides, mais l'ordre donné par l'armée. Il fallait que cette mention disparaisse. Et ça a donné lieu à des manifestations nombreuses et ferventes à Okinawa. Des habitants, 100 000, se sont réunis en 2007 pour dire « Nous voulons que cette mémoire et que cette histoire soit reconnue. » Oui, en 2007. Pourquoi ? Eh bien, on va voir pourquoi. C'est qu'il y a eu, à l'après cette guerre, en 1946 jusqu'en 1948, à Tokyo, un tribunal qui s'est réuni, qui s'est constitué, comme celui de Nuremberg, comparable à celui de Nuremberg en Allemagne, pour juger les mêmes crimes. Et un tribunal établi par les mêmes vainqueurs. Or, les vainqueurs, c'est-à-dire les alliés, c'est-à-dire les États-Unis, ont épargné celui qui était leur responsable principal de cette folie impérialiste, c'est-à-dire l'empereur lui-même. L'empereur Hirohito Showa, oui, c'est ainsi qu'il s'appelait. Ça peut sembler extraordinaire qu'on retrouve ce mot qui, au Japon, n'a absolument pas le même sens. Eh bien, a été épargné, lui, une grande partie de sa famille et un certain nombre de protagonistes et d'acteurs parmi les plus virulents et les plus actifs de cette période. Ce qui fait que pour les Japonais, les choses sont toujours en discussion. Le négationnisme est toujours virulent. L'extrême droite peut toujours prétendre au Japon que, puisque l'empereur n'a pas été condamné, alors le Japon non plus. Et l'alibi, le fameux alibi qui avait fonctionné à la fin des années 30, lors de l'invasion des pays voisins, à savoir qu'il s'agissait pour le Japon de libérer ces pays de l'occupation coloniale dont ils faisaient l'objet par les Anglais, par la France concernant l'Indochine, par les États-Unis ou par la Hollande, et bien que c'était ça, voilà, la mission du Japon à l'époque était de concourir à la décolonisation de ces pays colonisés. C'était un alibi à l'époque, c'était un prétexte, mais aujourd'hui, c'est toujours un enjeu de mémoire qui travaille très profondément la société japonaise. Voilà ce dont nous parlons aujourd'hui dans cette église, dans cette ville de Naha, à Okinawa. C'est jusqu'à 16h, c'est la basse J'y suis, Okinawa, une mémoire suicidée. We'll be right back.
それはもう最初から軍命があったわけですよ、うんうん、あの米軍の、まあ、空爆ですね、空爆して1945年27日に米軍が上陸した。それからザマミとゲルマは26日に上陸して、その日に集団死が起こったわけですよ。
Le 27 mars 1945, l'armée américaine a débarqué sur l'île et c'était lendemain, le 28 mars, l'ordre de suicide s'était donné par l'armée. C'est clair et
net.
Là-dessus, les maires ont fait banzai.
Banzai, c'est-à-dire?
Banzai,
banzai, il y a trois sens. Le premier, c'est que la guerre a gagné.敵を打ち負かしてた時に天皇陛下万歳となるんですね。
Il y a trois significations d'un banzai. Première signification, c'est quand on a gagné, on dit banzai, l'empereur, vive l'empereur, vive l'empereur. Deuxième
signification. 軍人が戦場でもうこれから自分が死ぬと、その後覚悟した時に天皇陛下万歳となってから死んだって。
Deuxième signification, c'est quand les soldats meurent dans le champ de bataille, ils disent vive l'empereur. En mourant, ils disent ça.
En mourant, ils n'appellent pas leur mère, ils disent banzai, c'est-à-dire vive l'empereur.
Et troisième signification, il va dire maintenant.
そして渡嘉敷での天皇陛下万歳は、はい、これでも死ぬんだよって死を命令した。
Et troisième banzai sur cette île de Tokashiki, ça veut dire mourir tous.
Mourir, c'est un ordre, mourir.
Ouais, mourir, oui. C'est le sommaire qui a dit banzai, mais trois fois.
からも死の命令は軍からすでに出ていますから。手榴弾でそれが発火してそれで死んだっていうのはわずかですからね、うん、じゃ次はどうやってその死のうかということで、うん、あの私は多くの人からちょっと離れて大人が何をするんだろうかと言って、うん、あの様子を見ていた。
Oui, mais l'ordre c'était le suicide, c'était il fallait mourir.Tout le monde doit mourir. Donc les grandes personnes, ils se groupaient pour discuter comment mourir. Et moi, j'avais 16 ans, je voulais savoir ce que les grandes personnes voulaient faire.
Il est l'ancien président de l'université chrétienne d'Okinawa. Il est révérend de cette paroisse, de cette église chrétienne où nous le rencontrons. Monsieur Shigeaki se souvient, il est une des mémoires de ces pages particulièrement épouvantables de la Deuxième Guerre mondiale et de ce qui allait être le terme de cette guerre et de l'aventure impérialiste et militaire du Japon qui durait déjà depuis plusieurs années. La Okinawa, la bataille d'Okinawa se déroule du 1er avril 1945 au 21 juin 1945, faisant évidemment les pertes sont comme toujours contestées, mais aux alentours de 200 000 victimes, donc en deux mois, un peu plus de deux mois et demi, 200 000 victimes, dont les trois quarts ou la moitié, selon les recherches, de civils. Pour environ 16 000 militaires américains et alliés tués dans cette bataille particulièrement atroce. L'histoire, il faudrait remonter au moins au début des années 30, en 1931, lorsque le Japon se lance dans la conquête de la Chine. Il y a déjà eu des conflits avec la Chine. C'est très important d'évoquer les relations, tout de suite les relations entre, et le passé, la mémoire entre la Chine et le Japon. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Cet enjeu de mémoire entre les deux pays est très important par rapport aux enjeux politiques et aux enjeux économiques actuels. L'histoire sert toujours dans ces enjeux-là, ces enjeux économiques et politiques. 1931, donc, le Japon envahit la Mandchourie chinoise, cette province chinoise, dont il va faire une sorte de colonie, et en se conduisant vis-à-vis des colonisés d'une manière particulièrement, particulièrement sauvage, en réduisant la population à l'esclavage, en l'exploitant pour, dans des entreprises, des usines, des mines, etc., mais avec une barbarie dont que les Chinois n'ont pas oublié. Ensuite, le Japon va étendre sa domination, sa colonisation à tous les pays alentour, mais il faut tout de suite évoquer quelque chose qui est souvent mis de côté dans cette histoire, c'est l'importance des saibatsu, c'est-à-dire des groupes d'entreprises, c'est-à-dire des trusts japonais qui ont constitué le système militaro-industriel du Japon pendant cette époque, appelée donc l'époque Showa, et des entreprises toujours célèbres aujourd'hui comme Mitsubishi ou Nissan ont fait partie de ces entreprises qui ont prospéré grâce à la guerre, grâce à la fabrication et la fourniture d'armements matériels et militaires, en exploitant des travailleurs forcés dans les colonies japonaises. Et là, tout de suite, évidemment, on pense à ce couple harmonieux qui était le capitalisme et le nazisme pendant la même période. C'est quelque chose d'important, et les responsables, les présidents, les chefs de ces saibatsu, eh bien, n'ont pas été importunés non plus après la guerre par le gouvernement américain, par MacArthur, et ils n'ont pas été importunés non plus lors du procès de Tokyo. C'est quelque chose d'important. Donc j'évoquais l'invasion de la Mandchourie chinoise, qui était devenue le Manchukuo, des millions de Chinois donc réduits à l'esclavage. Il y a ensuite, toujours en Chine, la conquête de Shanghai, les massacres, et surtout les massacres de Nankin, en 1937. 6 semaines de viols et de massacres contre la population civile, de 100 000 à 300 000 victimes. Ça, c'est quelque chose qui est marqué au fer rouge dans la mémoire japonaise, et qui explique beaucoup de choses toujours aujourd'hui dans les contentieux, les mémoires, d'autant plus que, on va le voir, et je le disais, tout ça n'est pas reconnu par la majorité des Japonais. On n'arrive toujours pas à un consensus, un accord général sur les responsabilités du pays, de l'Empire et de cette époque. Et ce qui, évidemment, rend les choses très compliquées. Et tout récemment, le Premier ministre japonais a dû démissionner, le dernier ministre japonais, Hatoyama, a dû démissionner il y a quelques jours, parce qu'il avait promis quelque chose aux Japonais, c'est la réduction des bases américaines dans cette région d'Okinawa, la réduction de cette présence militaire américaine. Il n'en a rien été, il n'a pas tenu ses promesses. Le président Barack Obama s'est opposé à toute réduction de la présence américaine dans cette région, et ça lui a valu une baisse de sa cote de popularité au point qu'il a été obligé de démissionner. C'est pas la seule raison, mais c'est une raison très importante. C'est dire si cette mémoire est toujours vive et travaille en profondeur ce pays que certains considèrent comme si mystérieux. Peut-être que ce sont des mystères qui nous sont beaucoup plus familiers que certains orientalistes voudraient nous le dire. On retrouve dans cette église cet petit homme assis et qui veut absolument, et jusqu'au bout de ses jours, témoigner M. Shigaki.
Aren no kuchou-san ga ne, kino eda wa shikiri to heshi otte wa kisi yo. Kono hito koe nani wo suru ndaro kana to watashi gyoshi shite tara, sono mokuhen ga sono kyouki ni kaerarete, 自分の奥さん娘家族を殺した、これがスタートだった。
Un des mères, il cassait les branches de l'arbre et je me demandais ce qu'il allait faire. Et puis avec les branches cassées, il poignardait sa femme et ses enfants. Et c'était le début.
そしてそれが発火点になって父親たちが家族を殺し始めたわけです。
C'était ainsi, le père de famille a fait la même chose, cassé les branches.Et pour regarder, femme et enfant, c'est trop dur.
で、方法は他には武器はないですから、手榴弾以外には。結局、木片で頭の頭部を叩いたり、あるいは首を絞めたり、あるいは草刈り、鎌で頸動脈を切ったりですね、カミソリで切ったり、手を切ったり、さまざまな、何でも凶器に。
Ou alors trouver un tronçon d'arbre et fracasser la tête, ou avec un rasoir couper la gorge, ou avec la faux couper les veines des poignets.
Bah, そこで大変な混乱が起こって、号泣ですね。女の人たちはもう大声で泣いてる。赤ちゃん、子供たちも泣いてるという、そういう今息地獄が展開するわけですが、私の家族に関してはどうしたのかと。
Et c'était l'enfer vivant, les femmes pleuraient, hurlaient, les enfants hurlaient, c'était l'enfer.
Alors, 家族6名家族ですけどね、両親と、兄、私、弟、妹と、6人家族ですけど、6人家族ですが、じゃあどうして家族に手をかけたらいいか、父はもう離れてちゃってですね、前の晩、アーレンってところから7キロの夜道を歩いて大雨が降って父と離れ離れになってんですよ。だいたい父親がその働きを殺害の行為をするんだけれども、
はい、concernant ma famille, nous sommes une famille de 6, père, mère, mon grand frère, moi, petit frère, petite sœur. Mais le père était pas là parce que il a traversé l'île la veille, il était pas encore arrivé. Donc c'est le père qui devait faire ce besoin.Donc je me demandais qu'est-ce que je devais faire.
父親の代わりに私の兄2つ上ですが、彼は18歳です。私は16歳。男の兄弟は2人だけですから、それはもう家族に手をかけたんですよ。父はもう別のところで死んだんですけどね。
Et en fait, mon père était déjà mort quelque part, mais je savais pas.Donc mon frère qui a 18 ans, moi 16 ans, c'est nous qui devions faire ce travail.
一番最初に手をかけたのは母親なんですよ。自分たちを産んでくれた母親。で、もう混乱して全てを覚えてないけれども、紐も多分使っただろう。あるいは棒切れも使っただろう。けど最終的にですね、確実に死ぬのは石でね、頭部を叩けば確実に死ぬという、それ残酷な方法を選んだ。それで私は号泣したんです。うん、母親も大きな声で泣いたんです。大声出して泣いた。
Nous avons d'abord tué notre mère et nous avons utilisé les cordes, mais je me rappelle pas détail. Nous avons utilisé le cordon, mais on n'arrivait pas.Et on a trouvé un énorme caillou, on a fracassé la tête, c'était le moyen horrible, mais c'était le moyen plus sûr. Et j'ai pleuré, j'ai hurlé.
その次に妹、弟にも手をかけ、妹も4年生になる頃ですね。弟は4月になれば1年生になる年齢でした。
Ma petite sœur avait 10 ans, mon petit frère avait 4 ans.Et nous avons fait.
Vous les avez tués tous les deux.
Oui, j'ai fait des mains. Mais la façon de faire est différente. Les enfants sont des enfants. Donc, ces mains sont assez faciles. Ils ne font pas des mains de faire des mains de faire des mains. Je ne me souviens pas bien de comment ils ont
fait. Oui, les enfants étaient, disons, plus faciles à achever, disons, mais je ne me rappelle pas très bien. Je ne sais pas combien de temps ça a mis, mais 329 personnes ont été tuées ainsi. Donc j'ai dû tuer non seulement ma famille, mais j'ai dû tuer aussi des gens dont le papa était déjà parti.
Vous avez tué combien de personnes en tout ?
Je ne me rappelle pas. Ce que je voudrais dire, c'est pourquoi on a dû faire ça.
Depuis
le Pearl Harbor, depuis le début de la guerre, on disait les Américains, les Anglais sont des démons.
On vous disait il vaut mieux mourir, il vaut mieux se suicider, il vaut mieux tuer les vôtres plutôt que de les laisser entre les mains de ces monstres-là.
Ouais. C'est ça.
ですからね、誰も殺したい人も一人もいないし、死にたい人も一人もいない。生き残ったら大変だと。そういう生きることへの恐怖ですね。それはアメリカによって瞬きをされたり、花や耳をそぎ落とされたり、はい、女の人は恥ずかしめを受けるという。
Évidemment, personne ne voulait mourir ou tuer la famille, mais nous avons été dominés par la peur d'atrocités inimaginables qui sera commis par ces démons de torture, de viol, de toutes sortes.
集団自決がだんだん末期になるにつれて、人も死んでいくし、最後に生き延びたらどうしようという生き延びることに恐怖を持った。
Au fur et à mesure que les gens mouraient, j'ai eu très peur et que si je deviens la dernière personne, comment je meurs? J'étais pris par la peur.
そして最後には兄と二人残ったんですね。家族に手をかけて、そして最終的には自分たちもやるつもりでしたけれども、兄と二人誰が先に死ぬかという死の順番を話し合って、はい、死のうとしている時に一人の少年が駆けてきたんです。
Moi et mon grand frère ont discuté qui tue qui meurt d'abord et qui reste. Et à ce moment-là, il y a un petit garçon qui est arrivé en courant.
で、この少年がだいたい同じぐらいの年齢でしてね、ここでこういう死に方をするよりは米軍に切り込んで一人でも敵を殺してから死のうという、これも
Et ce garçon me dit, plutôt que de se tuer, pourquoi ne pas aller tuer des Américains et de mourir carrément? C'était quelque chose encore plus horrible ce qu'on imaginait.
Yeah,
Parce qu'on croyait que les Américains, les Anglais, c'était des démons. Comment aller tuer les démons?
だからもう天皇の臣民としてね、それらしくもう死のうという覚悟をしていたわけですよ。そこ少年が駆け込んできてアメリカに切り込んでいこうということでそこを出たと。小学校6年生の子も2人いましたけど、それが生き延びるきっかけになった。
D'abord nous avons dit non, mais finalement on a décidé de partir à l'attaqueParce qu'il restait que nous et qu'on ne savait pas comment on réussira à s'entretuer. Et c'est ainsi que nous sommes partis à l'attaque.
À l'attaque contre les Américains?
しかし、アメリカ軍がどこにいるかわからない。で、そこを出て、とにかく足の向くまま歩いていったら、日本軍に会った。これ衝撃でしたね。
C'est comme ça que nous sommes partis, mais on ne savait pas où se cacher ces Américains. On marchait, et on a rencontré l'armée japonaise.Nous avons été très choqués.
それは第一のショックですね。他の住民も向こうに避難してるよと、生きてるよと聞かされて、自分たちだけが生き残ったと思ったけど、他の住民は向こうに避難してるよと。これ第二の衝撃でしたね。
Et deuxième choc, c'est que ces gens-là, ces soldats disaient « Ah, mais il y a d'autres personnes qui sont là, vivants, parce que je croyais que tout le monde devait mourir. »
Tout le monde ne s'était pas suicidé. Vous avez découvert à ce moment-là que vous auriez pu ne pas le faire. Vous avez avec votre frère, vous avez tué votre mère, votre sœur, et vous avez découvert tout d'un coup, en rencontrant l'armée impériale, que vous auriez pu ne pas le faire.
そうです。結果的にはそこに来てない人もいたけれども、命令を下した村長も生きてるし、つまり日本軍に会った時に裏切られたっていう。
Oui, ça m'a mis en colère terrible parce que le monsieur le maire qui nous a ordonné de mourir, il était vivant et beaucoup des villageois de d'autres villages étaient vivants.
Je voudrais savoir pour vous qui est responsable de ces crimes. Vous aviez 16 ans.Bien sûr, vous êtes responsable de ces crimes, mais est-ce que vous êtes le seul responsable ?
Cela a lieu, mais il n'y a pas de sainteté au cas où il y a des gens. C'est une crucifixion qui est toujours continuée.
Bien sûr, c'était sous pression, mais c'est moi. C'est avec mes mains que j'ai fait. Donc je ne peux pas m'échapper de cette responsabilité.
Vous nous dites, c'est ma responsabilité, c'est moi qui les ai tués. Nous avions peur des Américains, on nous faisait croire que ces Américains étaient des monstres. Dites-moi, pour vous, quelle est la part de responsabilité de l'armée impériale dans ces massacres ?
Alors, これはもう全体的に強制集団死に対しては全面的に軍の責任です。実は沖縄戦のキーワードはですね。
C'était entièrement leur responsabilité. Entièrement la responsabilité de l'armée impériale.
C'est important de dire ça parce que vous avez depuis quelque temps au Japon une affaire de négationnisme. Vous avez une partie de l'opinion qui dit l'armée japonaise n'est pas responsable de ces crimes.
だけどそれはそういう形で死んだ人もいますけど、数多くのね。住民がいわゆる強制集団死に追い込まれたのは3つの島々、うん、渡嘉敷、うん、座間味、うん、ゲルマ、うん、これ日本軍が駐留した島なんですよ3つとも。
Mais le cas de suicide vraiment collectif comme je viens de parler, ça s'est passé sur trois îles. 渡嘉敷、mon île, 座間味 et ゲルマ。Ces trois îles étaient vraiment occupées et dominées par l'armée de l'empereur.
C'est un témoignage terrible, saisissant que celui de M. Shigeaki. Mais c'est aussi un enjeu énorme pour le Japon. Parce que le suicide choisi est quelque chose de, j'allais dire d'acceptable, en tous les cas d'accepter, quelque chose que les Japonais comprennent.Et qu'ils pratiquent, qu'ils ont pratiqué en tous les cas à ce moment-là, à la fin de cet épisode, de cette attaque contre l'île d'Okinawa, des soldats japonais, nombreux, se sont suicidés pour ne pas se rendre. Des infirmières, une fameuse école de jeunes infirmières, se sont collectivement, elles aussi, suicidées. Et puis, les généraux responsables.D'Okinawa, qui dirigeait les opérations sur Okinawa, Ushijima et Cho, se sont eux aussi suicidés. C'est le suicide rituel qu'on appelle seppuku au Japon. Ce sont des traditions. Mais la question qui est soulevée là, c'est de savoir s'il s'agit de suicide choisi ou de suicide subi. Ça peut paraître une question atroce, monstrueuse, et bien c'est ce qui déchireLe Japon aujourd'hui, c'est-à-dire que si l'on considère, vous avez compris, que c'est le gouvernement, l'empereur, qui avait cette responsabilité, si c'était l'état-major, si c'est le pouvoir qui a exigé cela, c'est pas du tout la même chose que si c'est des gens qui choisissent de se suicider pour sauver leur honneur.Par fierté, pour des raisons liées à leur... chose qu'on peut comprendre
pas facilement, mais qu'on peut comprendre. Un enjeu donc capital. Après cette histoire évidemment traumatisante et qui n'a pas cessé de le traumatiser, Monsieur Shigeaki a évolué, a changé, a rencontré un prêtre et puis s'est mis à lire la Bible et puis il a trouvé là une consolation, mais jamais il n'a trouvé la paix et jamais il n'a accepté ce qu'il avait fait.
J'ai quand bien compris, vous êtes un homme d'église, vous faites porter cette responsabilité, cette culpabilité sur vos épaules à vous seul, mais il n'y a pas une colère à un moment contre la personne de l'empereur, celui qui a été complètement blanchi, celui qui a été levé de toute accusation après-guerre.
Ça arrive.
Si, bien sûr. Après la guerre, il y a beaucoup de pays qui ont accusé l'empereur de crimes de guerre. Oui.
しかし, 極東裁判では天皇は裁かれなかったんですよ.
Mais il n'a pas été jugé.
Mais il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Il a pu continuer et le Japon a continué avec lui.
それで, MacArthurがね, Eisenhower大統領に電話入れて天皇には責任があると。だけど天皇極東裁判で裁いたら日本はもう天皇崇拝というのは戦前と同じでしょう。戦争に負けたら二重橋で涙を流して写真もあったし。ですから一応国民もね、天皇教に染まった国民を。マッカーチュアは
a pensé que pour mieux gérer le Japon d'après-guerre, le Japon d'occupation, il valait mieux laisser l'empereur tranquille, parce que si on touche l'empereur, ça va être le chaos. Donc c'était voilà, la décision politique.
で、まあ私個人的なことを申しますとね、キリスト教信仰に入ったと、そういう意味ではその内面的な、まあ、克服したと、で命の尊さというのも、分かってきたし、だけど、
Donc avec la foi, j'ai pu surmonter intellectuellement ce qui s'était passé, mais je garde la peine immense dans mon ventre que je ne peux pas effacer. C'est mon passé, mais je pense que ceux qui oublient le passé ne peuvent pas vivre dans l'avenir.
Oh, yeah, I know.
Là, c'est le dernier jour ou l'un des derniers jours. Et on est sous la neige des pétales de cerisier qui tombent réellement. Hein. Ça tombe effectivement comme de la neige. Ça se pose sur les cheveux, ça tombe dans les verres de saké ou de bière et dans les plats qu'on déguste sous les cerisiers, sous les arbres. C'est vraiment des moments très agréables. Hein. Alors là, on est dans ce sanctuaire, c'est le sanctuaire de la guerre, la célébration du militaire comme une religion sacrée.
Rien de très exotique là-dedans. Nous aussi, nous avons notre sacralisation du militaire, de la guerre et du sang. Mais là, ça a une dimension particulière pour toutes les raisons qu'on a indiquées précédemment. Et le sanctuaire Yakusuni est un endroit double pour les Japonais et les habitants de Tokyo, mais de tout le Japon. C'est à la fois un sanctuaire, un haut lieu du shintoïsme, là où sont honorés ceux qui ont donné leur sang pour la patrie, mais c'est aussi un musée révisionniste, complètement révisionniste. C'est Forisson à Beaubourg, si vous voulez imaginer que Beaubourg soit un musée dévolu à la mémoire militaire, à l'histoire. Eh bien, voilà, c'est comme si les négationnistes avaient accès et étaient les historiographes d'un musée aussi important. Et chaque année, ces dernières années, enfin en tout cas entre 2001 et 2006, le premier ministre Koizumi, eh bien, a visité ce sanctuaire et où sont honorés aussi bien ceux qui effectivement ont héroïquement donné leur sang pour la patrie, mais aussi des criminels de guerre qui sont honorés dans cet endroit. Et ça a été une contestation extrêmement forte que la visite suscitée par la visite de ce premier ministre qui ne faisait pas de distinction entre les uns et les autres. Et voilà, une mémoire malade, une mémoire handicapée, une mémoire qui se cherche et qui souffre.
Ça, cette vitrine est consacrée aux kamikazes. Il y a les uniformes, les parachutes, dont ils se sont pas servis. Ils se servaient pas, ils n'avaient pas besoin de parachutes. Ouais.
Une photo qui dit « Bien qu'en flammes, après avoir été touché par les attaques anti-aériennes, le bombardier Suessei fonce sur sa cible, le porte-avions américain Essex. » Et on voit la photo en disant, soulignant le courage et la bravoure. Parce que souvent, les musées de la guerre, c'est pour dire le bienfait de la paix.
Il n'y a pas de musée de la guerre, il n'y a que les musées de la paix.
Voilà, plus jamais ça.
Livid Ordas.
Ce n'est absolument pas le cas. C'est bien pour ça qu'il y a un problème ici.
Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est une façon de voir les choses qui est entièrement révisionniste, mais qui est d'une dinguerie et d'un propagandisme qu'on trouverait qu'en Corée du Nord, dans la façon de mentir et on dément sur l'histoire. Quel est le mensonge? C'est de dire que les guerres absolument fascistes du Japon, liées avec l'Axe, avec l'Allemagne nazie et avec l'Italie mussolinienne, ce Japon-là, ce Japon colonisateur, a un prétexte, c'est de décoloniser les pays qu'il colonise. Parce que ces pays, effectivement, sont colonisés par la France, la Hollande, l'Angleterre, etc. Et c'est de dire, nous venons vous libérer. Mais là, ce qui se dit sur ce panneau, on est quand même en 2010, c'est que c'est grâce à cette colonisation décolonisatrice que d'autres pays, par la suite, ont trouvé leur inspiration pour leur lutte d'indépendance nationale.
Et c'est de voir comment tous ces leaders dont on voit les portraits là, c'est-à-dire Sukarno en Indonésie, mais aussi Gandhi, et Ho Chi Minh, etc., tous ces gens-là ont pris modèle sur le Japon et leur soif d'indépendance a été nourrie sous l'occupation japonaise. Et même après la défaite, c'est ce qui a rendu possible le combat pour l'indépendance en Asie, en suivant le modèle japonais.
C'est formidable.
Demain, on continue à Okinawa rencontrera Minoru Kijo, qui est un sculpteur formidable, l'équivalent japonais d'Ousmane Sow. J'espère que cette rencontre vous séduira comme nous. Merci à notre traductrice Atsuko Shioda. C'était un reportage avec Guy Vangtil. Merci aussi à Shage Kinjo, à Sanae Lefebvre, à Colin Kobayashi, à Denis Fontanarosa. À voir le numéro de juin 2009 de Manière de voir, la revue du Monde Diplomatique, sur le Japon méconnu, à retrouver sur le site du mensuel du Monde Diplomatique. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet et Elisabeth Collet, Koyen Guyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attend vos messages au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Qu'est-ce que je vois, monsieur, j'aime pas le foot, qui parie sur le foot?
Eh ouais.
Et depuis quand tu t'y connais en foot, toi?
Depuis 2 minutes.
Ah, eh ben c'est rassurant.
T'inquiète, pas besoin d'être un fan de foot pour gagner, hein.
Avec Paris On Sport, du 7 au 27 juin, en plus de vos paris, vous pouvez gagner un coupé sport cabriolet par semaine et de nombreux autres cadeaux en participant au tirage au sort. Voir modalités et règlements en point de vente et sur parionsport.fr.
Paris On Sport, mieux parier pour mieux gagner. FDJ.
Le papa de Matteo est serein. Il a choisi de protéger sa maison.
Avec la GMF.
Équipé d'un système d'alarme qui photographie l'intrus et d'une télésurveillance qui prévient la police en cas d'effraction, sa maison est en sécurité.
Grâce à la GMF.
Le papa de Matteo peut donc profiter de ses vacances en famille et penser à autre chose. Ce qui est humain après tout. GMF, assurément humain. En ce moment, un mois offert pour un premier abonnement souscrit avant le 29 août. Service opéré par Securitas Direct, conditions en agence et sur gmf.fr.
16h et presque une minute sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis, à Okinawa. Donc, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Est-ce encore un raté dans le moteur franco-allemand? On vient d'apprendre l'annulation de la rencontre prévue cet après-midi à Berlin entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Apparemment, ce serait un problème de calendrier côté allemand. La rencontre est reportée au 14 juin. Le président français et la chancelière allemande avaient prévu de se voir pour préparer le sommet européen de Bruxelles du 17 juin. Les deux pays se sont récemment opposés dans le traitement de la crise grecque et de celle de l'euro. Et la rigueur reste au programme pour les années à venir en Europe. L'Allemagne met la dernière main à un vaste programme d'austérité qui devrait comprendre des suppressions de postes dans le secteur public, des hausses d'impôts et des coupes budgétaires dans les prestations sociales. Berlin s'est engagé à ramener son déficit à 3% du produit intérieur brut en 2013 au plus tard. Même discours en Grande-Bretagne où le Premier ministre David Cameron a annoncé des coupes budgétaires beaucoup plus élevées que prévues. Garde à vue pour la jeune femme verbalisée en avril dernier pour conduite avec un niqab. Depuis ce matin, elle est interrogée, ainsi que son compagnon lié à ses badges et un employé de celui-ci dans les locaux de la police judiciaire de Nantes. Ces gardes à vue ont lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nantes pour faire la lumière sur une suspicion de relations polygames de lié à ses badges et des interrogations sur la régularité des aides sociales dont bénéficieraient plusieurs personnes de sexe féminin qui seraient en relation avec lui. Du changement à la tête du tennis mondial, après sa victoire dimanche à Roland-Garros, Rafael Nadal détrône Roger Federer. Le nouveau numéro 1 mondial met fin à 285 semaines de domination de Roger Federer. Le premier français, Jo-Wilfried Tsonga, pointe toujours à la 10e place. Chez les dames, l'italienne Francesca Schiavone grimpe à la 6e place après son triomphe à Roland-Garros. Marion Bartoli, 12e, est toujours la numéro 1 française. Les épreuves du bac, c'est pour bientôt, avec la première matière, la philo, dans 10 jours, et la plus jeune candidate cette année à 14 ans. DS Djiala est en terminale à Rouen. La jeune fille originaire du Cameroun vit en France depuis 5 ans. Magali Jouté a rencontré la jeune prodige.
DS est née au Cameroun et c'est dans son pays natal qu'elle a passé des classes, 4 au total. Elle vient à peine de fêter ses 14 ans alors que ses camarades de classe pensent aux sorties le soir et viennent en cours en voiture. DS est arrivée en France à l'âge de 9 ans. Elle s'est directement retrouvée en classe de 4e.
C'est vrai qu'au départ, ils sont peut-être un peu impressionnés, mais en fait, la plupart des gens me disent que je ne suis pas mon âge dans ma tête.
La jeune fille est par la force des choses mûre pour son âge, mais à la maison, on ne semble pas vouloir qu'elle aille plus vite que la musique.
En seconde, parfois, des gens de la classe, ils organisaient des petits trucs, mais non, j'y allais pas.
Pourquoi ?
Mais à cause de mon âge, ça fait pas trop mon âge. Donc.
DS souhaite devenir médecin. Elle n'a jamais été poussée par ses parents dans ses études, simplement soutenue et encouragée.
J'ai fait mes devoirs toute seule, j'apprends mes cours toute seule. Parfois, il y a mon père qui m'aide quelquefois quand je comprends pas. Ou bien, je révise en cours, je dis « Papa, est-ce que tu me donnais des exercices sur ça ?» Il me donne des exercices sur ça.
Et quand on demande à son papa, chercheur en chimie à l'université de Rouen, si sa fille est surdouée, vous n'avez jamais fait les tests ?
Je n'ai pas fait le test, mais je sais tout simplement qu'elle travaille.
DS a 11,5 de moyenne, elle espère décrocher la mention bien. Et en ce moment, elle révise avec sa sœur, Zeno, 16 ans, à croire que passer son bac avant l'âge, c'est une histoire de famille. Magali Joutet, France Bleu Normandie pour France Inter.
Et pour ceux qui seraient moins doués que DS, il reste encore 10 jours pour réviser.
Le fou du roi. Stéphane Bern.
Demain, mardi à 11h, Stéphane Bern recevra Marc Lavoine, Pef et Laurent Petit-Guillaume. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle du 13 au 17 juillet. 5 jours de live, plus de 120 concerts. M, Jacques Dutronc, Émilie Simon, Phoenix, Carmen Maria Vega, Tété, Indy Zara, Alain Souchon. Retrouvez-les dans le programme de France Inter. Les Francofolies de La Rochelle avec France 4 et France Inter. Renseignements 05 46 50 55 77 et sur franceinter.com. France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric Odéon.
Et bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, elle a l'air d'un mannequin, elle a l'air d'une cantatrice, elle a l'air d'une vedette en général. C'est une trompettiste absolument exceptionnelle, on l'a déjà entendue ici. Alison Balsom, des concertos italiens. Je vous propose tout de suite l'Allegro, tiré du concerto qui a été écrit pour le violon au départ, mais transcrit pour trompette par la virtuose, Alison. Et Vivaldi, peut-être, aurait été content, parce que lui-même était assez opportuniste dans ce sens-là. Il transcrivait sans vergogne, il avait beaucoup de talent. Allegro d'un concerto pour trompette, à l'origine pour violon, je l'ai dit, en la mineure d'Antonio Vivaldi, interprété et transcrit par Alison Balsom avec le Scottish Ensemble. Voici une autre grande dame, mezzo-soprano, qui va nous rendre visite d'ailleurs jeudi prochain, Joyce DiDonato. Mezzo-soprano, elle est américaine et elle propose un disque qui est consacré à Rossini. Rossini avait une grande faiblesse, et ça a été sa force aussi, pour une certaine Colbran, sa muse et cantatrice elle-même, Isabella Colbran, prima donna, qui était originaire de l'Espagne, qui a eu toutes les